Midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Ma mission, vous montrer que oui, la France bouge et que vous êtes les acteurs du changement. Gros plan aujourd'hui sur deux projets, Formarbitre et Wishbook. La première aide les clubs à former des arbitres de demain. La seconde veut laisser un coffre-fort numérique aux nouvelles générations. Ont-ils une chance de séduire nos experts? Réponse dans la France bouge Academy. À l'approche de Noël, des tas de jouets sont cassés. Et si on pouvait les réparer? Pas que de baguettes magiques, mais de la 3D, d'Agoma à la solution, vous découvrirez comment avec Elisabeth Assayag. L'hiver est là, le froid aussi, et avec eux un cortège de rhumes et de maladies en tout genre. Comment éviter leur propagation? Des Français ont planché sur le sujet. Et puis, elle n'a que 10 ans, mais a su s'imposer dans le secteur de l'industrie automobile. Wyss Group est l'entreprise qui va bien. C'est ça la France qui bouge, et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
Bienvenue dans la France Bouge Academy. Si vous le savez, c'est vous qui faites l'actualité. Vos projets sont prometteurs, idéalistes. Vous rêvez de les voir grandir. On vous aide en vous questionnant, en vous challengeant aussi, en vous disant quand ça ne va pas également. Et pour ça, eh bien, une adresse suffit.
Oui, vous nous envoyez un mail à l'adresse suivante e1-lafrancebouge@europe1.fr.
Et ensuite, eh bien, vous pousserez peut-être la porte du studio d'Europe 1. Une équipe vous y attend. Elisabeth Assayag est là. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous.
Nos experts sont au rendez-vous aussi. Bonjour Laurent Chauhin.
Bonjour Raphaël.
DRH du groupe Mazars, merci d'être avec nous. À vos côtés, Nicolas Herstel. Bonjour Nicolas.
Bonjour Raphaël.
Directeur adjoint du pôle Large Venture de la BPI. Et je vous présente face à nous Laurent Projas. Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être là. Vous êtes l'un des fondateurs de Formarbitre. Vous êtes aussi président de l'association de handball dans les Côtes d'Armor. Et vous avez eu l'idée d'inventer une solution digitale pour que les clubs puissent en fait former les futurs arbitres. Vous avez démarré il y a un an, discrètement. Et aujourd'hui, vous voulez vous développer. Vous avez, comme toujours, 1 minute 30 pour nous convaincre que c'est un projet qui en vaut la peine.
Effectivement, Formarbitre a été créé à partir du constat tout simple, c'est que nous formions au sein de nos clubs les joueurs et joueuses pendant 3 fois, 4 fois dans la semaine et rarement aussi souvent nos arbitres. L'idée m'est venue en tant qu'animateur de l'école d'arbitrage de mon club de pouvoir se proposer une solution digitale, mettre des questionnaires en ligne et ainsi permettre aux clubs de créer leur propre questionnaire intégrant des questions sous forme de QCM, intégrant de la vidéo, des sons, des images, pour que chacun des arbitres qui sont en devenir puisse se former tout au long de la semaine, tout au long du mois, 24 heures sur 24, et vraiment avancer comme ça dans leur progrès, et pouvoir ensuite être plus performants sur les terrains, au même titre que les joueurs et joueuses qui participent sur ces éléments-là. Aujourd'hui, au sein de notre structure, on a une trentaine de clubs qui aujourd'hui sont du coup souscrits sur la solution Formarbitre. Et désormais, on veut effectivement ouvrir plus largement au niveau du handball que moi je représente, mais aussi sur les autres disciplines et avancer au-delà, pourquoi pas aussi mettre en relation les instances pour pouvoir leur proposer sur les instances qui n'ont pas encore de solution digitale, cette solution, de manière à pouvoir là, être vraiment au service des clubs et des instances et permettre la formation des arbitres au fur et à mesure du temps.
Voilà pour le pitch. On va demander tout de suite, merci, à nos experts ce qu'ils en pensent. Laurent, Nicolas, qu'est-ce que vous dites de Formarbitre?
Déjà, immédiatement, on sent qu'un des enjeux, c'est votre relation aux fédérations. Parce que le jour où la fédération va approuver quelqu'un capable de faire ça, ça va donner un bonus énorme à cette personne-là. Donc, quelle est la nature de vos relations avec les fédérations de sport?
Alors aujourd'hui, la nature avec les relations fédérales, je n'en ai pas directement. Par contre, j'ai une relation aujourd'hui avec une ligue de handball, la Ligue de Bretagne, où nous sommes en discussion pour pouvoir mettre en place cette solution dans leur cursus de formation.
Nicolas ?
J'ai une petite question pour par rapport au modèle économique, justement, comment vous envisagez de vous développer, de vous faire connaître, justement, sur ces différents sports.
Alors aujourd'hui,
parce que pour l'instant, vous êtes en autofinancement.
On est en autofinancement avec un prêt d'honneur néanmoins. Mais l'idée aujourd'hui d'aller sur le bouche à oreille énormément, de travailler aussi auprès des clubs par les adresses normalisées de chacune des fédérations pour pouvoir se faire connaître à travers des lettres d'information. Et effectivement, d'aller aussi sur la partie fédérale, justement, pour pouvoir déployer plus rapidement les éléments. Et votre antenne va nous y aider aussi, je l'espère.
Laurent Chauvin.
Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite entre être joueur et être arbitre? Pourquoi faut être arbitre aujourd'hui?
Les deux vont de pair pour moi. un bon joueur est aussi un bon arbitre. Après, si on veut aller vers du haut niveau, les joueurs, il y a une forte sélection puisqu'on sélectionne très peu de joueurs à haut niveau. Sur le volet arbitral, on peut plus rapidement aller sur du haut niveau aussi. Mais la formation passe.
Et on peut durer plus longtemps comme arbitre que comme joueur ?
On peut durer un petit peu plus longtemps en tant qu'arbitre aussi également.
Nicolas ?
Votre vision à terme, justement, au niveau de la société, quelle est votre vision ?
Alors, la vision, on l'a évoqué avec mes associés sur une échéance sur 2020-2021, vraiment poussée sur le secteur français ou francophone. Et pourquoi pas, derrière, aller sur l'international aussi pour pouvoir aller au-delà.
Il y a des équivalents qui existent aujourd'hui, pas pour le hand, j'imagine ?
Alors, je sais que la Fédération de basket a mis en place sa propre solution de e-learning pour les arbitres. A priori, c'est la seule fédération qui est passée sur ce cap.
C'est quelque chose de très collaboratif, hein, si je vous entends bien. Vous avez une base de QCM, mais chaque club peut venir la nourrir.
C'est ça, c'est la solution même de base. C'est que le club, par lui-même, peut créer ses propres questionnaires avec différents niveaux.
Nos experts.
C'est tout digital ou à terme, c'est blended, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire mélangé entre du présentiel et puis de la distance ?
Alors, l'idée pour moi, une école d'arbitrage ne peut être que sur un binôme présentiel, puisque la gestion du coup de sifflet, il faut apprendre aux jeunes à pouvoir le faire. Mais toute la partie réglementaire, action de situation, elle peut se faire sur la phase digitale.
C'est comme le code et la conduite. Quoi,
c'est comme le code et la conduite, tout à fait.
Nicolas ?
Je trouve l'idée assez intéressante. Déjà, ça répond à un besoin à la base, parce que vous avez vous-même été arbitre ou vous connaissez assez bien le sujet sur le domaine du handball. Donc, je pense que ça, le besoin est bien. Le vrai challenge, c'est vraiment le déploiement pour vous faire déployer le plus vite possible et trouver du coup le modèle économique qui suivra en fonction de cet objectif-là.
D'accord.
Objectif, Laurent ?
Oui, un réflexe de DRH, c'est plus vous allez lier la formation à l'emploi et à l'employabilité, mieux c'est. Donc je pense que vous devriez beaucoup axer, c'était le sens de ma question initiale, sur cette capacité à lier la formation à une sorte de trajectoire personnelle dans le long terme.
Dans le long terme, d'accord.
En tout cas, il y a une version payante qui est dans les tuyaux, une version gratuite. Donc, ça peut intéresser potentiellement pas mal de monde, d'autant que la version payante, pour plus d'accès, elle n'est pas non plus démentielle hein, en termes de tarifs, puisque je crois que c'est entre 20 et 35 euros, c'est ça ?
C'est ça, on a essayé d'avoir une accessibilité facile, puisqu'on s'adresse essentiellement à des associations, donc loi 1901.
Et ça s'appelle Forme Arbitre, je n'ai pas spécifié, mais il n'y a pas de E à Forme, évidemment,
et
il y a un A majuscule, vous trouverez évidemment très facilement, si ça vous intéresse, si vous êtes un club de sport. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Forme Arbitre, et évidemment, vous nous donnez des nouvelles sur Europe 1.
Il est midi 38.
Europe 1.
Comment laisser une trace aux générations qui arrivent ? Wishbook a peut-être trouvé le moyen. À tout de suite pour le découvrir sur Europe 1.
La France Bouge Academy, c'est votre rendez-vous. Si vous êtes jeune entrepreneur, que vous souhaitez nous parler de votre projet, rejoignez-nous sur Europe 1. Vous nous écrivez pour ça, c'est très simple. Hein. Vous nous envoyez un mail à l'adresse suivante e1-lafrancebouge@europe1.fr, Raphaël.
Oui, évidemment, nous vous répondrons. Mais je voudrais d'abord vous préciser qu'on va revenir très largement dans le journal de 13h sur une information qui vient à l'instant de nous parvenir, puisque Jean-Paul Delevoye a présenté, s'est fait sa démission. Jean-Paul Delevoye, qui était en charge des retraites, de porter la réforme des retraites pour le gouvernement. Nous y reviendrons très largement dans le journal de 13h tout à l'heure avec Pierre de Villeneuve. Retour donc dans La France bouge. Vous le voyez, elle bouge à chaque instant, cette France, notamment avec des projets que nous accueillons tous les jours sur Europe 1, comme celui d'Olivia Egalji. Bonjour Olivia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez 30 ans et vous êtes la cofondatrice de Wishbook. Vous vous êtes lancée il y a un an avec l'envie de laisser une trace aux générations futures, comme une boîte hein, finalement que nos petits pourraient avoir envie d'ouvrir quand nous ne serons plus là, pour nous redécouvrir. Alors, à quoi ressemble ce coffre-fort numérique qui évidemment va nous intéresser tous, puisqu'on sera tous un jour disparus. Vous avez 1 minute 30 pour nous le dire.
Effectivement, nous passons notre vie à grandir, à apprendre, à construire. Mais avez-vous pensé à laisser une trace de votre existence ? Alors, Wishbook propose un site internet de coffre-fort numérique hautement sécurisé dédiée à celles et ceux qui souhaitent laisser une empreinte de leur existence et à ceux qui veulent transmettre un héritage émotionnel à leurs proches et aux générations futures. Nous proposons 6 coffres forts dans lesquels vous pourrez rédiger un message à vos proches, aux générations futures donc, mettre une sélection des souvenirs les plus forts de votre vie avec des photos, quelques vidéos, enregistrer votre voix. Tous ces éléments qu'on aurait aimé avoir de nos ancêtres peut-être, mais que la technologie ne permettait pas. Par ailleurs, vous trouverez d'autres coffres forts pour parler des volontés funéraires, mais aussi des directives anticipées. Là, on fait un petit décroché sur l'affaire Vincent Lambert, bien évidemment. Et vous aurez aussi de quoi parler de votre patrimoine numérique, puisqu'aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, les pages que nous avons, nous proposons de pouvoir les fermer par la suite. C'est une liberté nouvelle, puisque c'est vous qui écrivez vos souvenirs et votre empreinte, qui pourra être vu, regardé par les générations futures. On va faire traverser le temps à tous ces souvenirs forts. Notre ambition, effectivement, est aussi que les coffres forts des membres d'une même famille soient connectés entre eux afin de créer un arbre généalogique numérique qui pourrait être consultable par les proches et les générations futures. Et j'aime bien terminer avec cette citation de Gandhi qui disait « Ma vie est mon message, et vous, quel est le vôtre ?»
Oui, quel est le nôtre ? C'est vrai, vous avez raison. C'est une question qu'on devrait peut-être tous se poser. On se tourne tout de suite vers nos experts. Que pensent-ils de Wishbook, Laurent et Nicolas ?
Gandhi était avocat. ma question, c'est qu'un sujet comme celui-là, immédiatement ouvre la question, finalement, de la dimension légale qu'il y a derrière tout ça. Donc, comment vous avez abordé cette question-là ? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ?
C'est assez radical. En fait, la donnée est chiffrée. Donc, Wishbook n'a aucun accès au coffre-fort quand vous rédigez des informations. Vous êtes l'unique personne à avoir accès à votre coffre-fort de votre vivant.
Mais je pensais plus, par exemple, vous citiez le cas de Vincent Lambert. Est-ce que c'est de nature à avoir une valeur juridique ultérieurement ? Est-ce que c'est de nature à...
Bien, finalement, l'histoire de Vincent Lambert nous montre qu'il avait dit à sa femme qu'il ne voulait pas d'acharnement thérapeutique, s'il l'avait écrit. Effectivement, oui, ça a une valeur juridique. D'ailleurs, le document CERFA existe, en fait. Donc nous, on va juste le proposer, il sera disponible et les gens pourront le mettre dans leur coffre-fort. Ce sera l'unique coffre-fort qui sera consultable du vivant de la personne.
Nicolas ?
Par rapport aux autres coffres-forts électroniques qui existent aujourd'hui sur le marché, comment vous envisagez de vous différencier ou...
Alors nous, aujourd'hui, effectivement, on a un positionnement très différent par rapport à Digipost, etc. Puisque nous, on parle vraiment d'héritage émotionnel. Ça n'a pas vraiment de valeur juridique. On parle de souvenirs, on parle de mémoire.
Ça veut dire qu'on va trouver des photos, on va pouvoir faire des enregistrements de nos voix
tout à fait.
Pour raconter notre histoire.
Exactement. Tout à fait.
Elisabeth ?
C'est parti, cette envie de s'intéresser à notre patrimoine émotionnel quand nous ne serons plus là, c'est parti d'une expérience personnelle, parce qu'on n'entreprend pas dans ce domaine-là par hasard ou par...
Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'on a tous perdu des proches. C'est le propre de la vie, hein, c'est comme ça, c'est le deal. Donc on s'est tous retrouvés face à des situations en se disant « Mais quelle musique il voulait ou comment ? Est-ce que c'est incinération ou... ?» Voilà, pour la partie funéraire.
Ça vous est arrivé.
Et ensuite,
donc
oui,
c'est de là qu'est partie l'idée de votre
entreprise. Oui, il y a ça. Et puis, il y a aussi pour tout ce qui est vraiment héritage émotionnel. Bien sûr, des personnes qu'on n'a pas connues, des histoires qu'on entend enfant. Et en fait, le souvenir est de plus en plus lointain. Et ce sont des suppositions à force.
Moi, je trouve qu'il y a deux entreprises dans votre entreprise. Il y a la partie émotionnelle et la partie crémation. Enfin voilà, je trouve qu'il y a deux aspects bien différents.
Est-ce qu'il ne faut pas plutôt en choisir un ?
Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt angler sur une seule partie ?
Pour moi, non. Après, j'entends ce que vous dites. Mmh. Effectivement, le dénominateur commun à tous ces sujets, c'est effectivement la mort, la fin de vie. Libre à chacun, effectivement, de voir les choses de cette manière-là ou pas. Peut-être que nos wishbookers vont uniquement remplir leurs souvenirs et pas forcément
Mais
leur volonté.
Il y a peut-être une explication, c'est que vous avez écrit sur un papier il y a 5 ans cette idée, vous l'avez mise dans un coin, vous avez fait complètement autre chose. Et puis vous avez ressorti ce bout de papier et au départ, effectivement, vous vouliez faire un site pour inscrire les volontés funéraires.
Oui.
Et vous vous êtes aperçu qu'il y avait autre chose derrière. C'est
Tout
pour ça
fait.
Que vous avez rajouté finalement une deuxième brique.
Mmh. Exactement, ça a évolué. Et en fait, je me suis réveillée un matin en me disant « Mais ce serait génial de pouvoir entendre la voix de nos ancêtres, de pouvoir avoir des photos, des vidéos, toutes réunies au même endroit, puisqu'avec les déménagements, les héritages, etc., on perd beaucoup d'infos. »
Les experts.
C'est intéressant notre débat, parce que moi, je ne vois pas la ligne de démarcation sur ce que vous dites. Moi, je pense que la ligne de démarcation, elle est entre la mort et la mémoire. Et me semble-t-il, c'est ce voisinage qui n'est pas facile. Je crois que ce que vous proposez est quelque chose qui est intéressant du point de vue mémoriel, plus que du point de vue mortuaire, funéraire, etc.
Oui, on est d'accord, on est d'accord. Nicolas ?
Moi, je m'interrogeais en fait sur, par rapport à l'idée que je trouve vraiment saine et bien. Est-ce que le challenge, c'est pas plutôt d'essayer d'aider les utilisateurs à essayer d'agréger toutes ces données qu'on a au fil de l'eau, plutôt que une fois qu'on les a entre guillemets sélectionnées, c'est peut-être plus facile de les uploader sur des solutions de coffre-fort, même si elles sont pas forcément pareilles que celles que vous proposez. Et pour moi, il y a un vrai challenge pour aider justement, accompagner entre guillemets les utilisateurs à agréger toutes ces données dans le temps.
C'est exactement ça en fait. On fait un tri dans toute la donnée, on met tout sur le Weebook, tout simplement.
Et il y a une sortie prévue, juin 2020.
Oui, tout à fait.
C'est ça. Vous nous donnerez des nouvelles pour
Bien
voir
sûr.
Si vous avez pris un chemin ou l'autre, ou si vous avez gardé les deux, évidemment. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Weebook.
Merci beaucoup.
Merci à Nicolas Herstel qui était avec nous aujourd'hui pour la BPI.
Les midi 48.
Europe 1.
Et si le Père Noël pouvait réparer les jouets préférés de vos enfants grâce à Toys Rescue, c'est possible et c'est Dagoma qui leur redonne vie. Vous allez découvrir comment. C'est la solution avec Elisabeth Assayag. À tout de suite.